bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoumoudaïdi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour. Bonjour.
Formidable. Tom Villa.
Bonjour.
Guillermo Guiz. Ah, tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. Et notre invité, monsieur Marc Lévy. Bonjour Marc, déjà, commençons par le début, comment allez-vous ?
Mais ça va bien, et
bien,
vous ?
Bien, très bien, merci. Plaisir de vous accueillir, plaisir d'avoir lu chez Robert Laffont et Versilio Une fille comme elle, votre nouveau roman. Je me demande d'ailleurs si chaque fois qu'il y a un nouveau roman de Marc Lévy, on n'invite pas immédiatement dans la bande originale.
Bah si, je crois qu'on est fidèles, c'est, je crois que notre quatrième année.
Non, vous
n'avez
pas rendu compte de ça, ouais. Je crois. Hein.
Ouais. Si, mais sûr, je me suis rendu compte.
Si, on me le confirme en ouais. Régie.
Non, c'est parfait, c'est toujours la même période, c'est l'anniversaire de ma mère, comme ça, bim, Marc Lévy, c'est cadeau.
Et oui, sauf qu'il y a marqué spécimen et qu'on aura vu que tu n'as pas dépensé.
Non, mais je l'ai dépensé.
Les 21 euros.
Mais les années précédentes. Bon, là,
radin.
Ça tombe bien.
Radin. Quoi ? Alors, justement, il est question. C'est lui qui a commencé avec sa mère, il est méchant. Il est question justement d'argent dans votre livre, essentiellement d'amour et d'ascension sociale. Si j'emploie le terme d'ascension, c'est pas pour rien parce que. Un ascenseur est très important. C'est même le cœur de l'intrigue et des relations humaines qui se passent et même d'un vol, sans déflorer le comment du pourquoi dans ce livre. On est à New York, on est sur la 5e avenue, on est sur un immeuble cossu mais qui vit d'une manière traditionnelle avec les ascenseurs que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, c'est-à-dire un ascenseur où il n'y a pas de bouton pour aller à l'étage, c'est un liftier qui décide, un groom quoi, qui décide avec une manette de l'étage où il faut aller.
C'est vrai.
Voilà, c'est ce qui fait son chic, son voilà.
Absolument.
Et ce monsieur ou ces messieurs, parce qu'ils sont deux à se relayer pour être H24 dans cet immeuble.
Deepak.
Ouais, Deepak et Rivera sont les points d'ancrage de votre histoire. D'abord, d'où vient l'idée ? Est-ce qu'il existe cet immeuble ? Cet ascenseur existe ? Et vous êtes demandé quelle était la vie de ce liftier ?
Oui, il existe. Il existe. Je suis rentré dans cet ascenseur il y a de cela quelques mois, une petite année, et j'ai été très étonné parce que j'ai vu cet homme, ce liftier, donc cet homme qui se tenait de dos dans son uniforme, et ce personnage m'a beaucoup intrigué parce que j'ai tout à coup imaginé, je sais pas si vous aviez ce rêve quand vous étiez enfant, moi c'est un rêve que j'ai entretenu toute ma vie, où quand vous marchez dans les rues d'une ville, vous regardez les façades des immeubles et vous essayez d'imaginer la vie qui se passe derrière, avec cette envie de traverser les murs et de voir, d'imaginer la vie des gens. Alors bon, c'est un peu
donc vous auriez pu écrire Passe-Muraille, mais finalement vous avez écrit une vie comme ça.
Exactement. Mais c'est cet esprit-là, c'est cette envie d'aller épier une communauté, de voir comment les gens vivent à un endroit. Et en entrant dans cet immeuble et en voyant ce liftier, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que cet homme voit tout et lui, personne ne le voit.
Parce qu'il est de dos par respect pour ceux qui utilisent l'ascenseur. Il ne répond pratiquement pas aux questions à part bonjour, au revoir, bonne journée, parce qu'il ne veut pas s'immiscer ou paraître irrévérencieux ou impoli. Et il est au courant de tout.
Il entend tout. Parce qu'évidemment...
C'est un concierge plus, quoi.
Il entend tout. Et donc, je me suis dit, mais cet homme, c'est un passeur, c'est incroyable. Alors, je suis retourné le voir. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Évidemment, c'était pas très facile parce que son métier toute sa nature de vie, c'est d'être d'une discrétion absolue. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à sa vie. Et puis de là est né un personnage de fiction parce que.
Est-ce que c'est ce liftier était d'origine indienne comme le héros
non,
de
le,
votre roman?
Non, celui que j'ai rencontré s'appelait vraiment Monsieur Rivera. Il était plutôt d'origine.
Celui de nuit.
Ouais, c'était le liftier de nuit.
D'accord. Parce que alors là, on arrive aussi avec un autre volet. Il y a plusieurs degrés dans ce roman. C'est l'Inde qui nous fait rêver.
C'est l'Inde, c'est la différence. C'est ce Deepak, si on replace rapidement l'histoire, qui est ce liftier qui va bientôt recevoir la visite inattendue d'un neveu de sa femme,
Sanji.
Et lui vient d'Inde et forcément son premier contact avec New York, c'est de prendre un taxi et d'arriver dans cette ville et forcément.
C'est la douane, pardon, le premier contact
oui,
déjà.
Il
arrive avec la peur d'être
refoulé. Et en tout cas très rapidement, dès qu'il est dans un taxi, et forcément le conducteur, le chauffeur de taxi lui dit, vous venez faire quoi comme métier? Vous venez être conducteur de taxi vous aussi ou à la plage? plonge ou... Et tout de suite, c'est aussi les clichés. On est confronté à ça. On est un Indien, on arrive aux États-Unis, forcément, on vient là pour survivre et faire des petits boulots. Et on se rend compte que ce personnage-là, eh bien, il va nous réserver quelques surprises.
Oui, parce qu'en fait, c'est...
Il est brillant.
Enfin, c'est pas seulement qu'il est brillant, c'est qu'il a créé en Inde Facebook en mieux. En fait, il a créé un Facebook qui vous vole pas vos données privées. Et il est richissime. Voilà. Et comme c'est une comédie, hein, et que le propos d'une comédie, surtout, moi je suis un passionné des comédies anglaises, c'est d'enchaîner des quiproquos crédibles, mais où quand même il arrive tout sauf ce qu'on imagine. Ce type, ce jeune entrepreneur brillantissime, à cause des vieilles traditions familiales, va être obligé de renoncer à la suite qu'il avait réservée au Plaza et va se retrouver dans une chambre de 6 mètres carrés dans un des quartiers les plus, je dirais, populaires de New York, qui est Spanish Harlem. Voilà, chez une tante qu'il ne connaît pas. Et parce qu'il y a un autre concours de circonstances, il va se retrouver liftier de nuit dans un immeuble dont il pourrait racheter tous les appartements et éventuellement même le trottoir. Et comme il endosse un habit de liftier, tous les propriétaires qui sont bien plus pauvres que lui le regardent avec une certaine condescendance.
Oui. Vous oubliez, pardon, de préciser, c'est pas bien, c'est quand même vous qui avez écrit le livre, c'est que s'il se retrouve liftier dans cet immeuble, c'est par amour. Aussi.
Alors, par amour de plein de choses, en fait. Je crois qu'il se retrouve.
C'est par respect de la famille d'un côté.
Pour rendre service.
C'est par amour.
À son oncle par alliance et par amour pour Chloé.
Alors, pourquoi? Parce que, enfin, on va pas raconter tout le livre, mais.
Parce qu'il fait 385 pages. Ouais.
En fait, le fil rouge du roman, c'est la façon dont on perçoit la différence de l'autre. Et à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Et ça, vous savez que on peut parler de ça soit sous le registre de la leçon de morale, soit au contraire sur le registre de l'humour et de la comédie. Et dans cet immeuble vit une petite communauté de gens dont chacun n'est en réalité ce qu'il semble être. Et au 8e étage de cet immeuble vit par exemple un professeur d'économie à l'université de New York, mais qui est fauché comme les blés.
Monsieur Bornstein.
Voilà. Sa fille Chloé, qui est une femme. Assez rayonnante et pleine de vie et pleine de répartie et qui se déplace en fauteuil roulant depuis 5 ans
puisqu'elle a été
on peut le dire elle a
non mais je voulais pas dire où ni pourquoi je voulais juste dire qu'elle était son victime, handicap
elle a été
sa montre s'est arrêtée à 14h50
elle a perdu ses deux jambes à la hauteur des genoux
car il me manque 40
elle dit dans le roman
41 cm.
Ouais, elle me dit, il me manque 41 cm, ce qui finalement est très peu de choses par rapport à la taille de mon corps. Elle en fait le calcul, elle dit, je crois que ça représente 31% de mon corps. Elle dit, je connais des tas de gens qui ont perdu plus de cheveux que ça et on n'en fait pas un drame. Et elle a décidé, elle a renoncé, elle veut pas porter de prothèse parce qu'elle dit voilà je me déplace en fauteuil mais je suis une femme à part entière et c'est ce qu'elle va essayer de prouver.
Et elle veut pas qu'on l'aide d'ailleurs avec son fauteuil, elle veut se débrouiller seule, elle veut pas qu'on la pousse.
Mais ça, elle veut pas qu'on l'aide grâce justement au liftier parce que en fait ce qui m'a le plus touché quand j'ai discuté avec le vrai liftier, c'est de voir à quel point cet homme, c'est pas seulement qu'il est au courant de la vie de tout le monde, c'est qu'il a une vraie préoccupation. En fait, lui, il donne une quantité d'amour qui est absolument incroyable. Il est le passeur de tout le monde.
Alors, ce qui est intéressant dans votre roman, au-delà de l'intrigue romanesque, de l'histoire d'amour naissante, au-delà d'un suspense, parce qu'il y a une affaire policière, il y a une enquête qui va avoir lieu, il y a justement tout ça sur le regard des autres. Mais c'est le regard dans tous les sens. Il y a en effet, comme l'a dit Leïla, le premier regard du douanier quand on arrive, ou le premier regard du chauffeur de taxi avec vous, avec vos fringues, avec la tête, avec la couleur de votre peau.
Accent.
Voilà ce à quoi vous êtes destiné. Il y a le regard de la propre famille sur qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu trahis ou pas, est-ce que tu respectes ou pas les traditions. Il y a le regard sur un fauteuil roulant. Est-ce qu'on détourne les yeux ou au contraire on regarde la personne qui est sur un fauteuil. Et je le reprécise ici, demander à toute personne étant sur un fauteuil roulant, s'il y a bien une chose qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on détourne le regard justement, et parce que ce fauteuil est une aide à leur handicap. Il faut absolument pas détourner le regard, loin de là. Croisez le regard de ceux qui sont sur des fauteuils roulants et souriez-leur. Ça leur fera beaucoup de bien que lorsque vous pensez les respecter en détournant le regard pour ne pas les...
Pour une question de respect, quelquefois, c'est un peu de gêne, on sait pas comment.
Je te dis, tu les regardes et tu souris.
Et d'ailleurs, ce que vous dites est vrai. Et toute la raison d'avoir créé ce personnage de Chloé, En fait, c'est de montrer que il y a une grande différence entre dire de Chloé que c'est une femme qui se déplace en fauteuil et de dire que c'est une femme handicapée. Ouais. Et oui, c'est très très différent. Et en fait, elle, il y a une scène au début du roman où elle va dîner avec son père. Il y a comme ça un couple de gens qui les regardent et elle recule son fauteuil. Elle va voir le couple et elle dit c'est un modèle Karmann S511. Il est formidable. Il se remplit très facilement. On le range dans un coffre comme un rien. Et c'est même pas fait. Vous voyez, c'est même pas du sur-mesure. Il est très léger. Bonne soirée. Et elle s'en va. Et voilà. Et elle a un jeu avec son père. Par exemple, à la fin du repas, où elle s'amuse avec son père. C'est une de ses manies où ils essaient d'avoir une conversation sans parler. Donc ils font des mimiques. Et le jeu, c'est de deviner
ce que l'autre pense. Ouais.
Voilà ce que l'autre pense. Ce qui évidemment interpelle toujours les voisins, parce que si vous voyez des gens qui ont un dialogue de sourd muet, et elle adore ces moments-là, parce qu'à ce moment-là, les gens regardent pas le fauteuil, ils la regardent elle. Et elle veut ça.
Et puisque c'est des formidables moments de complicité aussi.
Ce sont des moments de complicité. Voilà. Et là, je dirais que là, il y a une phrase de, il y a une scène où, puisqu'on parle de ce jeune homme d'affaires brillantissime et d'ifti indien, où il est dans un restaurant et où il la voit rentrer, et il la regarde parce qu'il la trouve sublime et qu'il a un crack pour elle. Et son meilleur ami américain lui dit mais. Arrête, la regarde pas comme ça. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que ça se fait pas de regarder comme ça une fille comme elle. C'est comme ça que le titre est né. Ouais. Et lui dit, mais c'est quoi une fille comme elle? Et pour lui, ça veut dire quoi? C'est parce qu'elle est trop belle, ça se fait pas de regarder une fille.
Tout est donc autour du regard des autres.
Oui, tout est autour du regard des autres, de la différence, en fait. Je pense que Sanji a une motivation. Sanji, il a créé un réseau social parce que lui, il considère que la grande arnaque contemporaine, c'est d'avoir appelé les réseaux sociaux, alors que ce sont des réseaux asociaux et ce sont des réseaux antisociaux parce que c'est malheureusement toute la... Je ne vais pas faire de cours de politique, mais aujourd'hui, Facebook est un outil de déstructuration et de dissociation. C'est terrible ce que je veux dire. La haine véhiculée sur les réseaux sociaux est entretenue sur les réseaux sociaux.
Alors, pardon, il y a deux choses. Il y a plutôt Twitter qui est propre à la haine et à la facilité, à l'agressivité, à la méchanceté. Facebook, à la base, c'était un peu comme votre héros, plutôt un plan de drague. C'était même initialement pour noter les filles à la fac, quoi. Ouais. C'est-à-dire leur donner des notes avec elles sont mignonnes, elles sont pas mignonnes, on a envie de sortir avec elles, on n'a pas envie de sortir avec elles.
Une bonne idée, quoi, de départ, déjà.
Un truc de macho, ouais, voilà.
Un truc d'organisation, c'est tout.
Et c'est devenu ensuite, chacun crée son réseau d'amis, ou croit avoir des amis,
mais
en fait
non, malheureusement,
chacun,
non.
Voilà. Non, mais d'accord.
Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Twitter,
c'était ça leur point de départ.
Oui, mais aujourd'hui, là, en fait, si vous voulez, Twitter, c'est le café aussi du commerce, entre guillemets. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qu'on ait, vous voyez, 2 ou 50 followers, on a l'impression que les gens ont perdu leur vocabulaire. On peut plus partager. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord, on vous traite de tous les noms et on vous insulte. Mais bon, ça, je veux dire, vous voyez, enfin. J'ai vu, moi, toute mon enfance, les gens les plus civilisés monter dans une voiture et au premier carrefour, tout à coup, devenir.
C'est bête.
Vous savez, mais non, mais même vous savez, votre prof de lettres qui vous donnait des leçons en vous disant, on ne dit pas ça, et qui monte dans la voiture et puis au premier carrefour et qui va insulter. Bon, ça c'est un truc très humain. Non, ce qui est devenu problématique sur Twitter, en fait, c'est je dirais la façon dont vos données ont été achetées pour vous catégoriser, pour vous identifier,
ça,
pour
c'est
savoir
Facebook.
Quelles sont.
Ouais. Ça c'est Facebook maintenant.
Absolument.
Il se sert des informations personnelles et vous n'êtes plus propriétaire de ce que vous avez déposé en termes de droits d'auteur, ce que vous avez mis sur vos comptes Facebook appartient à Facebook avant de vous appartenir.
Oui, mais là où c'est encore plus grave et on n'en parle pas, c'est la façon dont Facebook permet d'influencer le comportement social. Regarde, aux États-Unis,
y compris l'élection de Donald Trump.
Ouais. Oui, mais enfin, c'est quoi l'histoire de l'élection de Donald Trump? C'est que en fait, grâce à Facebook, des sociétés privées ont pu identifier les gens qui correspondait à un profil politique hésitant, c'est-à-dire je vais voter pour l'un ou je vais voter pour l'autre, et à partir du moment où vous aviez été identifié, vous receviez systématiquement dans votre flux d'informations une quantité massive de fausses informations qui allaient orienter votre... Ouais. Donc je parle de la manipulation.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Pour revenir au roman, Sanji, lui, il veut créer un vrai réseau social, c'est-à-dire un réseau où les gens se rencontrent non pas parce qu'ils se ressemblent, mais au contraire parce qu'ils sont différents. Et lui, il est convaincu que si on s'intéresse à la différence de l'autre, si on l'apprend, eh ben on a une énorme chance de sortir des préjugés. D'ailleurs, il balance deux, trois fois, il y a une conversation avec, même avec Chloé, où elle lui fait une réflexion sur l'Inde, et il lui dit, non, mais je vous en veux pas. De toute façon, dès qu'un Occidental voit l'Inde autrement que par le prisme de la vache sacrée.
Du turban sur la tête.
Et du turban sur la tête, voilà. Donc, c'est ça, le
votre livre
de cette
est sorti là, il y a deux jours, à peine, il est tout chaud, et pourtant, votre héros construit son réseau social autour du scandale Facebook. C'est de la prémonition de votre part d'avoir écrit ce réseau anti-Facebook dans votre livre au moment où ça a explosé dans le monde entier. Vous n'avez pas écrit le livre il y a 15 jours quand même.
Ah non, parce que ce sont des sujets qui... Moi, j'ai toujours été passionné justement par les autres. J'ai toujours été... Si je voyage depuis maintenant 30 ans, c'est parce que rien... C'est ma passion.
Oui, mais vous dénoncez la propriété, la manière dont Facebook se sert des données dans votre livre, alors que, encore une fois, le scandale est extrêmement frais.
Mais parce que moi, je me souviens, par exemple, quand Facebook a mis l'application Messenger, hein, c'est-à-dire quand ils ont dissocié, vous savez, l'outil de Messenger de l'outil de Facebook... Je m'étais dit, mais pourquoi ils font ça? Et à un moment donné, il suffisait de lire, quand j'ai vu apparaître sur mon téléphone portable ce que Messenger me demandait d'autoriser. Enfin, écoutez, je vous fais une petite anecdote pour revenir. Imaginez que vous allez à la poste. Et vous dites à la poste, bonjour, je voudrais un timbre. Alors, je sais pas, en France, ça vaut un timbre classique. Bon, je voudrais un timbre et j'ai une lettre à poster. Et là, le facteur vous dit, le type au guichetier vous dit, oui, d'accord, merci. Vous n'avez pas fermé la lettre encore, hein, j'espère, parce que la condition générale de la poste, hein, pour poster une lettre, c'est que, il faut que vous me donniez, d'abord, je la lis. Ensuite, évidemment, je vais stabiliser tous les mots qui m'intéressent, parce qu'il y a un certain nombre de mots dans votre lettre qui, en fait, caractérisent votre comportement, et on en a besoin. C'est pas pour être méchant, hein. J'ai juste besoin, parce qu'après, à la poste, elle va vous vendre des tas de trucs, et donc, j'ai besoin de savoir. C'est à votre mère que vous écrivez? Ouais, très bien. Alors, non, parce que je suis obligé de... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde combien de fois par an vous écrivez à votre mère, parce que ça nous permet de savoir si vous aimez un peu, beaucoup, moyennement votre mère, parce que du coup, ça nous évite de vous envoyer des pubs pour acheter des cadeaux à votre mère. Mais, et là, en fait, c'est fini avec votre maîtresse ou pas? Parce qu'on a vu que vous achetiez des fleurs que vous envoyez pas à votre femme. Donc ça, c'est votre facteur qui vous dit ça. Et là, vous lui dites, je voulais juste envoyer ma lettre. Ouais. Ah, oui, monsieur, mais ça, c'est les conditions générales de la poste. Aujourd'hui, quand vous vous connectez sur un site internet, vous avez vu la nouvelle grande arnaque. C'est que, par exemple, vous voulez lire, mais même sur, je suis sûr que c'est le cas sur le site de France Inter, vous voulez lire une news. Et avant de lire la news, vous avez un espèce de gros truc rouge carré marqué, nous utilisons des cookies. Alors, il faut expliquer vachement que les cookies, c'est pas des gâteaux, hein. Les cookies, c'est des mouchards qu'on pose dans votre téléphone à chaque fois que vous allez sur un site et qui vont espionner chaque chose que vous lisez. Mais, j'avais quel âge? 89, j'avais 28 ans quand Berlin est tombé.
Ça vous rend dingue, ça, apparemment.
Non, mais je vous dis juste ça. Quand j'avais, il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. J'avais 28 ans quand le mur de Berlin est tombé. Quand le mur de Berlin est tombé, on a découvert que la Stasi, qui était la police est-allemande, avait en fait employait des dizaines de fonctionnaires pour épier la vie privée du peuple est-allemand. Et ça a déclenché en Occident un effroi absolu. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, la définition d'une dictature, c'est ça. C'est quand, je dirais, des gens qui sont étrangers à votre vie privée épient votre vie privée.
Savent tout de votre vie privée.
Je pense que la Stasi...
Et on s'est dit, ça n'existait que à l'Est, en fait, on l'a créé.
La Stasi ne savait pas, à mon avis, 10%, enfin, n'avait pas le 10% de l'information que Facebook détient sur vous. Vous, la jeunesse, et sur nous tous. Aujourd'hui, on ne peut plus, aujourd'hui, lire... On a créé cet outil Internet. Moi, j'ai fait partie des pionniers de l'informatique en 83. J'étais dans la Silicon Valley. J'ai vraiment vu naître l'Internet. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'information circule sur Internet. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une vraie démocratie quand on n'a plus nous n'avons plus la possibilité technique de prendre connaissance d'une information sans qu'un organisme privé viennent vérifier quel est le mot que vous avez lu, à quelle vitesse vous lisez, quelle est la tendance
parce qu'on se rend pas compte, parce que c'est fait de façon presque ludique, et c'est pour vous aider, on vous donne la masse.
Non, c'est comme il a raison, c'est comme les conditions générales que personne ne lit. C'est-à-dire, à un moment donné, on va sur Google, il y a un pop-up avec, attention, les conditions générales ont changé. Ouais. Et il y a 10 pages, tu déroules toutes les pages.
Maintenant, j'ai même vu qu'il te proposait, si vous voulez voir les conditions générales, cliquez ici, sinon cliquez sur suivant tout de suite.
Voilà, oui, pour avancer.
Je propose même plus de les lire.
Mais ça veut dire que comment vous vous fonctionnez au quotidien pour éviter ça? C'est-à-dire que vous allez acheter votre journal papier dans un kiosque, mais en liquide, parce qu'avec la carte bleue, de toute façon, on peut vous repérer.
Non, quand enfin, même pas, parce que quand vous achetez un journal, quand vous achetez un journal papier, vous n'avez pas un mec qui est posé sur votre épaule et qui regarde les articles dire en même temps que vous lisez.
Non, non, en revanche, les articles sont écrits par des gens, les journaux appartiennent à des groupes.
C'est surtout à des fins commerciales, l'utilisation de tous ces cookies.
Oui, moi, ce qui m'inquiète plus, au-delà du commerce,
c'est plus seulement utilisé à des fins commerciales. Ce qu'on vient de vivre avec le scandale de Cambridge Analytica aux États-Unis.
Donc l'élection de Trump.
C'est le principe, peu importe.
Il n'est pas là pour parler de nos amis non plus.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient de voir que nos données maintenant sont aussi utilisées pour influencer nos comportements politiques, nos goûts et nos divisions. Enfin voilà. Pour revenir au roman, Sanji est très conscient de ça. Et Sanji, il a envie de créer, il s'est mis en tête dans son utopie de créer un réseau social qui va faire en sorte que les gens se rencontrent pour apprendre leurs différences. Au lieu de se détester, et d'ailleurs il a cette phrase d'une naïveté totale, mais moi à laquelle je crois énormément, et il dit « mais est-ce que tu imagines le devenir d'un pays où les gens commenceraient par s'écouter avant de s'invectiver ?» Ce qui, il faut le dire, est à peu près le contraire de ce dont on parlait sur Twitter.
Une fille comme elle, le nouveau roman de Marc Lévy vient de sortir. Vous avez bien compris, Tom Villa, pourquoi Marc Lévy est
invité. L'un des personnages du livre de Marc Lévy, c'est un liftier. Voilà, c'est un conducteur d'ascenseur. Est-ce qu'on peut parler deux secondes de l'ascenseur? C'est un lieu que je trouve extraordinaire.
T'aimes ça?
Pas comme moyen de locomotion, mais comme microcosme social. Parce que comme moyen de transport, c'est assez binaire. Il y a rarement de suspense. À part le mec étourdi qui pensait monter et qui se retrouve au parking au moins un. Mais il n'y a jamais eu de. Hey, Michel, tu me crois pas. Je pensais monter à la compta, je me suis retrouvé à Cancun. Tu vois, ça n'arrive jamais, ça. Ipsos avait fait un sondage sur les ascenseurs en 2015. 4% des Français ont déjà fait l'amour dans un ascenseur. Et 100% des femmes ont trouvé ça trop rapide. 60% des sondés déclarent aussi y avoir déjà engagé la conversation avec un inconnu. Voilà. Les 40% restants ne voulaient absolument pas et ont d'ailleurs trouvé cette conversation inintéressante et espèrent ne plus croiser Daniel Morin. Quand on a 4 étages en commun, non mais c'est vrai, quand on a 4 étages en commun et on a 28 secondes pour faire une conversation, il y a 3 sujets, la météo, les fringues, les cheveux. Voilà, mais t'as jamais eu un mec qui t'a dit, et toi le conflit israélo-palestinien, tu te positionnes comment? C'est trop court. Non, le seul truc que j'aime bien avec l'ascenseur, c'est que ça permet de savoir si t'as le compas dans l'œil. Alors, la limite max est de 200 kilos. Moi, j'ai fait 75. La blonde, elle est 53. Et le demi-chauve avec les vêtements, 123. On l'a tous fait. Moi, j'adore. J'ai l'impression de jouer au boucher. 63. Ah non, 58, pardon. Bon, il y en a un peu plus. Je vous laisse quand même. Tu vois, c'est un peu bizarre. Les ascenseurs, c'est magique. 12% dans le sondage disent qu'ils y ont même dragué. Alors ça, comment tu fais pour draguer dans un ascenseur? Ça doit être dur, parce qu'il y a pas d'alcool, donc déjà c'est dur. Il y a rien que tu puisses faire qui puisse faire plaisir à une femme dans un ascenseur. Ou alors, j'étais pas au courant qu'appuyer sur son étage à sa place, ça pouvait la rendre folle amoureuse, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ou alors, si c'est une hypochondriaque qui a très peur des microbes, et à ce moment-là, s'il y a des trentenaires qui ont plus de gel hydroalcoolique et on arrive avec Nagui à 12h45 dans les tours de la Défense, mais tu vois, c'est bizarre, tu vois. En plus, on a toujours ce cliché dans les films américains des mecs qui draguent dans les ascenseurs. Tu sais, ils rentrent rez-de-chaussée, ils se connaissent pas. Le mec, il ressort, il a son numéro, un rendez-vous pour le soir même et un petit bisou.
Mais il sent bon.
Ouais.
Mmh. Mais... Ah, il sent bon.
Il est très beau en général, en plus.
Parce que faut le dire, l'ascenseur, c'est un lieu de fantasme. Je sais pas si c'est le côté exigu ou les lumières blanches.
Ils sont bons, vous savez, mais j'adore.
C'est vrai, c'est un lieu de fantasme. Je sais pas si c'est le côté exigu ou les lumières blanches qui font ressortir les cernes, mais pour beaucoup, ça excite les gens. Vous voyez le fantasme de la femme sublime avec qui tu restes bloqué dans un ascenseur, en n'ayant plus aucune marque du temps, vos regards se croisent et vous vous mettez à faire l'amour. Bah, moi, j'ai eu sa mère. Sa mère qui avait acheté des riz de veau. Je te jure, je suis resté un coup bloqué 20 minutes avec ma voisine qui revenait de la boucherie. L'interphone d'urgence. On a eu Foudil qui était à Agadir, qui entre la barrière de la langue et la distance nous a fait plus passer du temps qu'aider. Les portes se sont réouvertes toutes seules et quand on est sorti, il y avait 4 personnes qui nous attendaient. Et la voisine en sortait, elle m'a fait un clin d'œil. Et tout le monde pensait qu'il s'était passé quelque chose. Et comme il y avait une odeur de riz de veau, en plus, je me suis fait accuser de pétomane. Bref, je déteste les ascenseurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va passer comme ça, comme dans un ascenseur, Marc Lévy. En tout cas, je vous souhaite une bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Léla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Marc Lévy revenait.
Oui, on reviendra à Marc Lévy sur votre carrière tout à l'heure dans la bande originale, mais quand je pense à vous, je pense à une période qui peut sembler un peu surréaliste. Enfin, moi, c'est complètement surréaliste pour moi. J'imagine que pour vous, ça a dû être un peu dingue.
It's just a month-to-month sublet. Some kind of tragedy in the family.
What are you doing?
Ma. Hello?
So what kind of encounter did you have?
Encounter?
There's nothing worth stealing here.
I live here.
You can't live here.
because I live here.
C'est un extrait de la bande-annonce de Just Like Heaven, l'adaptation produite par Spielberg, de votre premier livre. Et ça, c'est complètement fou. Et si c'était vrai, les acteurs, c'est Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Avec le recul, Marc Lévy, quand vous repensez à cette période, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Premier roman adapté, je veux dire, les noms quand même, une fois qu'on les a alignés sur une feuille, c'est vertigineux.
C'était un rêve et ça reste un rêve en fait. Quand j'y repense, ça, le temps n'a pas passé. Vous savez, c'est le genre de rêve qui vous habite toute une vie. Parce que, et d'ailleurs, peut-être parce que ça s'inscrit dans le registre de la comédie et pas de la gravité. Parce que l'humour vieillit jamais en fait. Un drame, vous voyez, enfin, j'imagine que si c'était vrai, avait été une histoire dramatique, elle aurait peut-être vieilli. Enfin, dans ma tête, vous voyez, elle aurait peut-être vieilli, elle aurait peut-être passé. Mais par exemple, à chaque fois que je revois la Grande Vadrouille, j'ai pas l'impression du tout que le film est vieux ou qu'il est daté. Ou si je revois Notting Hill, vous voyez, la fraîcheur, elle vieillit pas. La fraîcheur de la joie de vivre, de l'envie de se marrer, de communiquer, de la légèreté. Et comme c'était dans ce registre-là que s'inscrivait, si c'était vrai. Quand je revois les conneries de Mark Ruffalo, je dis ça avec tendresse, je les trouve toujours aussi joyeuses. Je dis les conneries de Mark Ruffalo et de Reese Witherspoon parce que la scène qui vient, elle est particulièrement, elle est joyeusement bête, puisque en fait, c'est quand on parle à un fantôme dans son appartement et.
En lui disant, tu laisses la place.
Voilà, et le fantôme n'est pas du tout conscient qu'il est un fantôme, donc.
Pour rejoindre la question de Leïla, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir suffisamment profité l'instant présent au moment où ça s'est passé? Parce que là, vous en parlez avec beaucoup de tendresse.
Ah non, j'en ai profité à fond. J'étais tellement conscient que c'était absolument pas normal et que c'était un rêve et que et en plus c'était marrant parce que j'en profitais d'autant plus que j'en profitais en tant que spectateur, pas en tant j'avais pas du tout. C'est pour ça que je fais référence à la comédie. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si vous avez l'impression que vous avez créé un truc absolument génial, vous avez un risque, c'est de vous regarder vous-même au lieu de regarder ce qui se passe. Et moi, j'avais absolument la conviction contraire, c'est que, à un moment donné, une porte allait claquer, que j'allais me réveiller le matin et que rien de tout ça n'avait existé, vous voyez. Donc, j'étais au contraire.
Le syndrome de l'usurpateur.
Non, mais c'est
si, du on l'a tous. Pourquoi nous? Pourquoi là?
Oui,
pourquoi,
ou même, ou, je dirais, vous savez, d'avoir.
Enfin, toi, c'est justifié.
Oui, mais j'assume, je l'ai, moi, ça.
Oui, non, mais vous savez, vous avez, sans avoir tiré les numéros à la loterie, vous êtes allé à la loterie, ils vous ont payé votre truc, mais vous vous dites, ils vont me rappeler dans 3 jours pour se dire qu'ils se sont trompés de numéro, qu'il y avait quand même une erreur. Donc, je voulais vraiment en profiter à fond. Et puis, c'était, à cela, il faut rajouter que tous les gens qui étaient dans cette aventure, Mark Ruffalo, mais même Spielberg, personne, c'était pas des gens qui se prenaient au sérieux. C'est vraiment le truc, ce que je retiendrai de plus incroyable avec Spielberg, c'est l'humilité de cet homme et à quel point c'est un monstre sacré du cinéma, mais c'est l'enfant qui est en lui. Et je peux vous dire qu'il est toujours là.
Et ce que vous avez également raconté, Yvan Attal, si j'ai bien du moins à ce micro, mais c'est peut-être ça aussi la force des grands, leur humilité.
Leur enfance, quoi.
Oui, puis je crois que c'est surtout. Je pense que quand quand on aime profondément son métier, c'est son métier qu'on aime, pas soi dans son métier. D'ailleurs, vous citez Yvan Attal, quelqu'un que j'aime énormément et qui est un ami. Je sais pas, moi, je sais vous, mais moi, j'ai adoré le Brio. J'ai trouvé que c'était
formidable, absolument.
C'est tellement truculent. Ouais. Et c'est pareil, vous voyez.
Et donc, vous l'avez vu dans Le Fils au théâtre.
Oui, oui, formidable. Évidemment, formidable. Évidemment.
Et je pensais aussi à votre sœur Lorraine Lévy qui a adapté au cinéma votre 6e roman, c'était Mes Amis, Mes Amours. Lorraine qu'on avait reçue ici pour Knock, qui aime aussi la comédie. Et vous envisagez comme réalisateur? Parce que quand on vous lit, en fait, moi j'ai la sensation quand même que vous écrivez de façon très imagée. Mais vous posez des tableaux, donc.
En fait, c'est un piège, pour tout vous dire. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis c'est un piège, il faut pas se gourer. Si vous lisez Les Trois Mousquetaires, c'est extrêmement cinématographique.
C'est vous qui avez écrit ça?
Alors, je voulais qu'on en parle parce que je suis content que vous posiez cette question. Parce que c'est assez agaçant qu'on ne me le dise pas assez souvent. Il est temps que ces choses-là soient dites.
Monsieur, on sait recevoir.
Et j'allais parler d'un deuxième, d'un deuxième, une deuxième œuvre littéraire très cinématographique, avant que vous me posiez la question, ce sont Les Misérables.
Que vous avez aussi.
Que bien sûr, j'ai, voilà. Et, c'est le piège. Assez étrangement, l'écriture la vraie écriture cinématographique est l'exact contraire de l'écriture romanesque, puisque quand on écrit un scénario, il faut laisser une énorme part aux acteurs qui vont prendre possession et qui vont, eux, donner vie, et au metteur en scène qui va orchestrer le tout. Quand vous écrivez un roman, il faut, avec des mots, créer dans la tête d'un lecteur une voix propre à chaque personnage et une apparence physique et...
Le roman n'est pas le scénario. Je veux dire, il y a un vrai travail d'adaptation après. C'est vrai qu'on le prend pas tel quel pour le transposer sur grand écran.
Non, mais même la méthode d'écriture n'est pas la même. Ouais. Si vous écrivez, je vous donne juste un exemple. Moi, en 19 romans, je n'ai jamais décrit un de mes personnages physiquement. Jamais.
Chloé, un peu quand même.
Pas du tout. Et c'est, oui, j'adore.
Laurent, tu la vois blonde ou brune, toi?
Moi, je la vois blonde.
Voilà. Ça, c'est vraiment pas écrit dans le roman. Oui.
Et en fait, elle est chauve.
Je la vois blonde, je la vois bouclée. Et je la vois avec des yeux bleus.
Et en fait, tout ce que vous venez de dire, c'est pour moi l'essence même, c'est vraiment ce à quoi je travaille. C'est-à-dire que vous, vous la voyez comme ça, et moi, je ne vous ai donné dans le roman aucune description physique de Chloé.
Peut-être que vous avez dit qu'elle était belle et que d'un coup je me suis dit donc elle est comme
et
ça.
En général, en tant que romancier, je vais pas dire qu'elle est belle. Quelqu'un qui l'aime va la trouver belle. Et
mais pardon, le point commun pour revenir à ces romans que sont Les Trois Mousquetaires, Les Misérables, ou le côté l'écriture cinématographique, c'est l'histoire. Il faut une bonne histoire. Quel que soit le roman, une bonne histoire. Quel que soit le film, une bonne histoire fera un bon roman, fera un bon film.
Mais c'est le propos même du roman, c'est de faire vivre une histoire qui s'anime dans la tête d'un lecteur. Alors qu'un cinéaste peut très difficilement avoir un casting complètement flou où les personnages sont... Woody Allen y est arrivé, mais c'est le seul.
C'était le sujet du film.
Donc en fait, voilà, pour répondre à votre question, non, j'ai pas un film en tête quand je raconte une histoire. Je fais un travail de romancier. Oui, c'est jouissif quand votre roman est adapté au cinéma, parce que vous parliez de Mes Amis, Mes Amours. Quand je me suis retrouvé dans la petite rue de Londres, qui reconstituait la rue du roman, et que j'ai vu dans la librairie Vincent Lindon et Pascal Elbé donner vie aux personnages de Mathias et d'Antoine, tout à coup, alors c'est pareil, vous êtes de nouveau dans le conte de fées. Vous vous dites,
même si ça correspond pas à l'image que vous en étiez faite.
En fait, ça c'est une décision qui va dépendre du metteur en scène. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'une adaptation d'un roman est fidèle ou infidèle, ça n'est pas si le film a trahi ou non l'histoire, c'est si le metteur en scène a embauché dans son film les personnages du roman. Assez étrangement, dans Et si c'était vrai, l'adaptation est très proche de l'histoire, mais très infidèle, parce que la personnalité d'Arthur dans le film n'a rien à voir avec la personnalité d'Arthur dans le roman. Alors que Mes Amis, Mes Amours, pour des questions de budget, il y a des tas de scènes du roman qui se trouvent pas dans le film, mais Lindon et Elbé étaient exactement Mathias et Antoine du roman. C'est incroyable. Moi, j'avais l'impression que ils étaient, mais...
En chair et en os, sortis du livre.
Et même leur complicité, leur connivence, c'était la même. Leur rivalité, vous savez, cette amitié un peu vacharde et en même temps passionnelle, c'était exactement celle du roman.
Amitié Vachard, c'est ce qui peut également définir Guillermo Guise.
Eh ben les transitions.
Voilà.
C'est fini ce temps. Bonjour les amis.
C'est fini les transitions.
Alors bon, je suis pas souvent sérieux dans cette émission. Vous me connaissez. Mais là, je pourrais citer 1000 phrases de lui, évidemment, mais je vais en garder une. L'important dans la vie, professionnel mais pas que, c'est d'arrêter toujours voilà, focusser sur le day-to-day comme un teubé. Dites alors Portnoy, comme survolté par l'émotion. Sinon tu te coupes à fond de l'horizon pour ce carrière.
Quelle phrase ?
Et ce mec a jamais eu le prix Nobel, quoi. Il a jamais eu le prix Nobel, Philippe Roy Cédric. C'est putain de Suédois, quoi. Suédois. Heureusement qu'ils ont eu Abba, là-bas.
Vous pouvez la redire.
C'est clairement pas une phrase de Guillermo Guise, en tout cas.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
L'important dans la vie professionnelle, mais pas que, c'est d'arrêter de focusser sur le day-to-day, parce que sinon, tu te coupes à fond de l'horizon post carrière. Philippe Roy dans le texte. Vraiment. Et donc. Je sais ce que vous allez dire. Il a écrit d'autres trucs plus forts encore, Philippe Roth, notamment sur les dérives de l'électroménager. Il y a des pages inoubliables sur le sexe avec la charcuterie, etc. Je sais, rip Philippe, mais au moins ici, il pose une vraie question. Quelle carrière après sa carrière. Prenez Daniel Morin, par exemple.
Un exemple au hasard.
Une longévité de...
Pourquoi tu gémis?
Une longévité de dictateur africain. Accroché à son taf comme une moule à son matelot. Pas de reconversion pour Daniel, non, pas de reconversion, il va mourir à l'antenne comme Doc et du Foul, en susurrant une dernière chronique ambiguë, de sa voix suave et rassurante, de voleur de vieux. Mais pour les autres, quelle après-carrière? Prenez Barack Obama par exemple. Barack Obama, le mec le plus cool du monde avec Alain Gillot pétré. Ah, ça va, il parlait cumulonimbus comme personne, putain, rip Alain Gillot. Eh bien, Obama, il était président des États-Unis, en théorie c'est le pic de ta carrière. Derrière, quand tu vas chez Pôle emploi, les gens étant là, ils vont, je vais pas vous mentir, monsieur Obama, ce que j'ai pour vous, ça va pas être aussi bien ce que vous avez avant. Honnêtement, vous avez déjà été pion. C'est un peu comme président, mais président d'une cour. Il faut aimer les crachats, quoi. Mais Barack, c'est Barack, et Barack, c'est stylé. Avec son épouse Michelle, ils vont produire des documentaires, des séries et des films pour Netflix, dans le but de promouvoir l'empathie entre les peuples. Leur premier film sera une comédie sociale avec Christian Clavier. puis il y aura une série documentaire sur l'engagement politique des frérots de la Vega. Tellement prometteur. Moi j'aurais aimé pour une fois dans sa vie, Obama fasse un truc pas cool. Tu vois, genre qu'il annonce, voilà, avec ma femme, on va ouvrir un abattoir. C'est la miche qui va éventrer les vaches et les poulets. Moi, je ferai les moutons et les animaux rares. Qu'est-ce qu'il y a? Premier vegan qui chouine, je lui envoie les drones. Non, vraiment, ça aurait été bien pour une fois. Il va faire ça. Mais bon, c'est Michel et Barack. Ça reste un sans faute. Moi, en général, je suis pas hyper fan du concept de couple à cause des MST et tout. Et de tous ces trucs que t'attrapes quand tu forniques avec autre chose qu'une chaussette. Mais ouais, moi je préconise la fécondation in vitro, hein. C'est-à-dire que je ken direct avec des tubes en verre. C'est vrai, Cédric Villani. Mais l'Obama, il te donne vraiment. L'Obama, il te donne envie de trouver l'âme sœur, vraiment. En France, le seul couple qui fait un peu autant rêver, et encore, à la limite, c'est Leïla Kaddour Boudadi et Laurent Fabius. Et c'est plus pareil depuis qu'on sait qu'ils prennent leurs vacances au parc Astérix. Mais c'est sûr que Obama, c'est sûr qu'il allait nous sortir un truc, une reconversion stylée, alors que c'est dur d'être un ex-président stylé. Prenez François Hollande, par exemple. François Hollande. En fait, quoique, je trouve qu'il est en voie de coolisation, François Hollande. Il va finir dans Burger Quiz, c'est sûr. Non, mais bientôt, ce sera le nouveau compte Insta à suivre sur Insta Hollande. Mais je suis certain, par contre, en revanche, je me demande ce que fera Emmanuel Macron quand il aura fini d'être banquier. Ma théorie, c'est que s'il a tellement voulu renouer avec les cathos, c'est parce que son dream job, je suis sûr, c'est évêque. Ça fait sens. Il part déjà comme un cureton. Franchement, tu l'écoutes à 11h du matin le dimanche, tu peux pas faire la différence avec la messe. Vraiment, il y a assis contre un. Dans 10 piges, Macron, il est en soutane. Et on l'appelle Monseigneur. Sûr et certain. Mais ce qui est dur, c'est vraiment de penser à l'après-carrière. Toujours. Même quand t'es chroniqueur, par exemple. Prenez Guillermo Guise. On arrive en fin de saison. Là, j'ai demandé à Nagui ce que je pouvais attendre pour l'année prochaine. Il m'a répondu de faire comme tout le monde, d'aller sur Parcoursup. je lui ai dit, vous n'aimez pas mon travail, maître. Il m'a fait, non, c'est juste que plus la saison avance, moins on comprend ce que tu dis. On dirait que tu fais une espèce de longue AVC étalée sur plusieurs mois comme ça. Soit tu prends un orthophoniste, soit tu prends un ventriloque. Parce qu'en l'état, on peut plus le garder. Même Radio Courtoisie se moque de nous. Donc vraiment. Et dire qu'ils vont gagner Daniel Morin. Allez, bonne émission. Allez,
merci.
La bande originale.
T'es avec nous l'année prochaine, Guillermo?
Inch'Allah.
Oui, je vais parler.
Mais nous, est-ce qu'on sera là?
C'est ça, c'est une autre question.
C'est une question.
Mais qu'il soit avec nous, on n'a pas dit où.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Nous allons parler des castes en Inde, puisque c'est aussi l'un des sujets, l'une des toiles de fond du dernier roman de Marc Lévy, Une fille comme elle, publié chez Robert Laffont. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, qui est une voix de France Inter, Anthony Bélanger. Mais d'abord, parlons de la musique et de ce que vous écoutiez, par exemple, en 79, cher Marc Lévy, vous écoutiez. We don't need no education. We don't need no Another Brick in the Wall. Tout à l'heure, vous parliez du mur de Berlin. On parle aussi des rapports entre autorités, étudiants, élèves et autres, c'est le cas de ce titre de Pink Floyd et presque de leur comédie musicale et de leur clip.
Ça n'a pas pris une ride.
Non, non.
C'est incroyable.
Et musicalement, et dans le propos aussi.
Ah, mais pour, oui, c'est incroyable.
Et vous, en 79, Marc Lévy, vous avez 18 ans et vous vous engagez comme bénévole à la Croix-Rouge, ce qui est un choix qui n'est pas forcément très commun. À 18 ans, généralement, on préfère occuper son temps libre. Je sais pas, aller draguer les filles.
Ouais, mais j'avais aucune chance, alors je suis rentré à la Croix-Rouge.
C'était peut-être un plan drague. C'est peut-être un plan drague.
Non, ça, je vous jure que non.
Non, ça marche pas.
Vous dites, si elles sont évanouies, j'ai peut-être une chance.
Oui, c'est ça.
Avec le bouche à bouche, je vais cartonner.
Non, mais tu vas prendre un verre après, et une fille te dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je travaille à la Croix-Rouge. Tu marques des points.
Non, là, à l'époque, elle vous disait, ah bon, à bientôt.
Non. Et pourquoi cet engagement? Pourquoi là-bas?
j'avais envie de... Enfin, je crois que j'avais envie d'être utile. Mmh. Et je trouve que c'est très difficile, quand on est au sorti de l'adolescence, de... L'école vous dit pas à quoi vous servez. Et en fait, on parle de la crise existentielle à l'adolescence. C'est très compliqué, hein, quand on a 16 ans ou 17 ans dans un monde de 7 milliards d'individus, de se dire à quoi je sers et qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je suis là.
Et qu'est-ce que vos parents vous conseillaient à ce moment-là ?
Et c'est plus un rapport avec ses parents, c'est un rapport avec soi-même. Et en fait,
c'est un rapport. Mais enfin, pardon. Soit on prend le contre-pied de ce que nos parents nous disent, soit on suit leurs conseils. Mais on peut pas dire qu'on est totalement coupé de ses parents, même encore aujourd'hui.
Pas libre.
Non, mais je pense que sa vraie identité, on la trouve soi-même. Il y a un moment où il faut justement tant qu'on passe son temps à chercher
d'accord,
son
mais
identité.
Dites-moi ce que vos parents vous disaient.
Moi, mon père m'avait, mes parents m'avaient, enfin, il y avait d'abord mes parents fonctionnaient à l'humour et pas à la leçon de morale, et me disaient si tu mets ton centre de gravité sur ton nombril, tu vas t'ennuyer beaucoup et tu vas énormément ennuyer les autres. Et si tu déplaces ton centre de gravité vers les autres, tu vas découvrir le monde et ça sera passionnant. Mais après, il faut transformer ça, parce que ça, c'est bien d'un point de vue théorique, mais après, il faut le constater par soi-même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez à la Croix-Rouge, ou dans une association, dès que vous...
Humanitaire,
oui. Oui, mais humanitaire, c'est même un grand mot. Dès qu'en fait, vous vous rendez utile aux autres, vous trouvez un sens à votre quotidien, c'est extraordinaire, puisque ce n'est plus vous seulement qui dépendez de vos parents, de l'école, du système. Tout à coup, il y a des gens qui dépendent de vous.
Et on le fait pour soi aussi.
Mais bien sûr.
C'est pas si généreux que ça. Enfin, c'est une part de générosité,
mais
pas uniquement.
Non, c'est pas une abnégation totale de soi-même. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, quand vous avez 17 ans et que tout à coup, quelqu'un dépend de vous. C'est la première fois de votre vie que quelqu'un dépend de vous. Donc,
c'est gratifiant, ouais.
Vous n'avez plus toute cette échelle sociale qui dit que, ah ben non, t'as 17 ans, tu peux rien faire. Donc, non, c'était magique.
1984. Les États-Unis, Cool and the Gang, Take My Heart.
Là, c'est là que j'ai quitté la Croix-Rouge pour essayer de draguer.
Ah ben, si vous arrivez à danser là-dessus, ça peut fonctionner.
Et du coup, vous allez aux États-Unis, vous vous dites, voilà, change de pays, je vais draguer ailleurs. Où vous créez deux sociétés. Vous l'avez évoqué, spécialisée dans un peu dans l'informatique, l'image de synthèse, je crois, pour l'une. Ouais. Et c'était en Californie et dans le Colorado.
Alors
donc,
quand on dit quand on dit créer deux sociétés, ça fait très sérieux et très intelligent. En fait, on est parti avec une bande de copains. On avait compris que il se passait un truc dans la Silicon Valley qui n'existait nulle part ailleurs à l'époque. On a fait un emprunt étudiant et on est parti. Alors vraiment avec un sac à dos. On a vécu cette aventure folle où on s'est mis, c'était pas un garage, mais c'était un tout petit bureau où on travaillait, dormait, vivait et se lavait. Et on a créé une société d'images de synthèse, mais vraiment, enfin, au premier jour.
Ça s'appelle Pixar, qui a pas trop marché. Mais
est-ce qu'elle a marché, votre société, ou pas d'ailleurs?
Elle a super bien marché. Nous, on a beaucoup marché. Mais ça a très bien marché pendant 8 ans et après, on s'est cassé la figure.
Au moment de la bulle Internet?
On s'est cassé la figure parce que quand vous vous lancez dans la technologie et que vous n'avez pas de moyens, en fait, il n'y a pas cette époque aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. À l'époque, pour développer une société, il fallait qu'elle ait un modèle économique. Donc il fallait qu'on vende quelque chose et qu'on gagne de l'argent. Et comme on était malgré tout identifié français dans la Silicon Valley, on n'avait pas accès aux ce qu'on appelait les business angels américains. Et quand on allait parler à des investisseurs français, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était la technologie. C'est plus le cas aujourd'hui.
D'où vient votre intérêt pour les autres cultures, que ce soit les voyages, aller aux États-Unis pour la société, que ce soit dans vos romans avec l'Inde et la culture dont nous allons parler dans quelques instants, ou même pour vous de vivre, que ce soit plutôt à New York, plutôt à Londres,
ou à San Francisco, ou ailleurs.
Pourquoi?
Je sais pas comment dire ça.
C'est pas que les impôts?
Non, parce que vous savez...
Non, j'en sais rien, c'est une vague d'inquiétude. Ouais.
Non, mais en plus, c'est marrant parce que c'est toujours un a priori sur le voyageur, mais c'est très, très... Ça n'a jamais été le cas dans ma vie.
Pourquoi avoir la bougeotte comme ça?
Mais en fait, c'est une passion qui s'explique pas. Pourquoi est-ce qu'un homme devient marin? C'est très compliqué d'expliquer ça, parce qu'il y a un moment, il s'est passé un truc qu'il n'explique pas dans son enfance, qui fait qu'il a eu l'appel de la mer. Alors, on ne va jamais demander à un marin, mais est-ce que tu vas en mer parce que tu n'aimes pas la terre? Il a besoin de partir et de faire le tour du monde.
C'est la réponse de Sylvain Tesson quand on lui demandait pourquoi vous êtes toiturophile, pourquoi vous escaladez tout. Et il nous a répondu, ben voilà, il y en a quand ils sont heureux, ils baissent leurs pantalons, et ils boivent un coup, ben moi j'escalade.
Non, c'est pas quand ils sont heureux, quand ils ont une dose d'alcool.
Oui, non, mais ils sont sous, il est un peu pété.
Non, mais moi j'ai eu ça, alors je peut-être.
Là, il est pas bourré, Marc.
Non, je vais vous dire, il y a peut-être un. J'ai pas fait de psychanalyse, mais.
Il sera peut-être temps.
Oui, peut-être, mais après,
en tout cas, c'est pas l'adresse.
Mais je vais vous dire, je crois que le fait d'avoir eu un père qui mon père ait été dans la résistance, qu'il a été torturé, qu'on l'ait mis dans un wagon de déportation, qu'il se soit évadé de ce wagon de déportation, et que finalement il ait réussi à aimer toute sa vie, à se marier, à faire des enfants et à pas seulement à survivre, mais à vraiment vivre. Et de cette phrase qu'il m'avait dit très jeune et qui m'avait beaucoup marqué, où il m'avait dit, mais tu sais, avoir gagné contre les nazis, c'est pas avoir gagné la guerre, c'est justement avoir été capable, en dépit de tout ce qu'on nous a fait, d'aimer, de vivre et d'aimer les autres. Et je crois que ça a vachement résonné dans mon enfance et que je me suis dit. Je crois qu'en fait, le plus beau voyage de la vie, c'est d'aller partir à la rencontre des autres et de pas passer sa vie à essayer de se rencontrer soi-même. C'est un mode de vie. Je dis pas qu'il est mieux.
C'est un mode de vie, c'est un mode d'écriture aussi. Parce
oui,
que se passe aussi
attention, je suis pas du tout en train de vous dire que c'est le mode de vie.
Non, c'est le vôtre.
C'est le mien.
Ben voilà, c'est déjà ça en tout cas. Mais vous voyez qu'on en revient encore une fois aux valeurs inculquées par les parents dans nos choix.
Vous avez raison, il va falloir que j'y aille.
Faut y aller, hein. Nous allons justement parler de ce qui se passe en Inde en 2018 avec vous, Anthony Bélanger. Mm-hmm. Merci d'être à votre micro.
Écoutez, Leïla.
Lui aussi, il aura besoin d'aller voir le psy.
Est-ce que l'Inde en 2018, comme on le sent dans le livre, ça, c'est une Inde qui vit encore sur les castes, mais qui est dans une explosion économique folle.
Voilà. Alors, je vais peut-être vous faire une mauvaise surprise, Nagui, parce qu'en fait, j'ai lu le livre que vous m'avez confié, le livre de Marc Lévy.
Ça c'est du professionnalisme.
Totalement inspiré autre chose. Enfin non, autre chose. Ça m'a inspiré ce que font les grands livres, c'est-à-dire en tout cas les bons livres, ceux que j'aime, c'est-à-dire une interprétation des projections personnelles et des interprétations qui sont complètement différentes. Alors, vous savez que je suis géopoliticien, hein, un truc très sérieux, très ennuyeux.
Ça, c'est vrai.
et que j'ai tous les matins Daniel Morin sur mon plateau. Ouais. Mais
c'est ton plateau.
À 6h49.
Dans les histoires du monde.
En fait, évidemment, en lisant le début de l'ouvrage, je me suis dit, mais en fait, c'est une métaphore parfaite du monde qui vient et du monde qu'on laisse derrière, du crépuscule de l'Occident. Cette espèce de, pour plein de raisons que je vais vous raconter. D'abord, Greenwich Village, il faut savoir, à New York, c'est quand même un quartier où se trouve l'immeuble dont vous parliez tout à l'heure. C'est un quartier qui a existé, qui a été important, qui est un peu le cœur battant de l'underground new-yorkais dans les années 70-80. Mais aujourd'hui, c'est un quartier un peu immobile. Et d'ailleurs, les habitants de cet immeuble sont des gens un peu immobiles.
Ouais.
Hein, ce sont des gens du monde ancien, des intellos, des gens qui ont vieilli, des gens qui ne regardent. Il y a cette vieille dame qui s'enferme au quatrième étage, hein, qui est obsédé par ses serrures. Il y a ce Bronstein qui est un vieil intellectuel un peu ruiné. Et puis il y a ce monde d'avant où au fond les Indiens.
Journaliste raciste de Fox.
Exactement. Voilà. Il y a ce monde d'avant où les Indiens étaient liftiers, comme vous le disiez, Leïla, et où étaient conducteurs de taxi. Et puis il y a le monde nouveau qui arrive, c'est celui de Sanji, c'est celui justement d'une Inde que je commence à bien connaître, d'une Inde qui explose, d'une Inde qui récupère. Qui d'une certaine façon, c'est qui s'enrichit d'une Inde qu'on continue de regarder comme un pays pauvre, à turban et à caste, alors qu'en fait, l'Inde d'où il vient, Mumbai, est une ville monde, est une ville cosmopolite par excellence. C'est la ville de Bollywood, c'est la ville aussi de tous les grands quotidiens indiens.
Est-ce qu'il y a encore, en 2018, des interdictions de mariage, des mariages forcés, et une gestion des castes de la vie quotidienne?
Bien sûr qu'il y a encore ça en Inde, comme il y a énormément de contraintes dans tous les pays du monde. Il y a aussi ces contraintes classistes en Grande-Bretagne, dont je reviens là, du mariage royal. Je peux vous dire que c'est clair qu'il y a une vraie différence de caste entre l'aristocratie britannique et ce qui se passe dans la rue au moment de la fêter. Je veux dire, ces différences de caste existent en Inde et effectivement le mariage endogamique, le fait qu'on ne se marie pas hors de sa communauté existe toujours.
Sauf qu'en Angleterre, on admire et on achète des mugs à l'effigie des princes et des princesses. Il y a un véritable culte des, tête des Anglais pour leur royauté.
Il vaut mieux parce que sinon on leur coupe la tête. Les Anglais l'ont fait, hein, je vous rappelle. En 1649, les Anglais ont coupé la tête de leur roi et à la hache. Alors que nous, là, on fait plus, comment dire, élégamment, d'une manière plus moderne, à la guillotine.
Mais en Inde, est-ce qu'il y a une rébellion? Est-ce que justement, un peu comme la tante de Sanji,
qui est moderne,
il y a depuis...
et Deepak, on quitte, on s'en va parce que justement, on nous oblige à et on ne veut pas, on veut être libre.
Il y a depuis 70 ans des politiques de discrimination positive qui permettent aux Dalits, c'est-à-dire en fait, voilà, ce qu'on appelle en Occident, d'ailleurs de manière impropre les intouchables, de pouvoir entrer à l'université, avoir des places dans l'administration. Donc il y a des politiques de rééquilibrage, mais il y a toujours effectivement la place, le poids des castes et de la contrainte sociale, ça clairement. Ce que je voulais juste dire, c'est que dans ce livre de Marc Lévy, donc il y a une fille comme elle, il y a aussi ce monde qui vient, et ce monde qui vient est quand même fascinant, parce que je voulais quand même rétablir juste une petite erreur historique. L'Inde, comme la Chine, ont été pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité les premières et deuxièmes puissances au monde. Mmh. C'est-à-dire que de l'Antiquité
commerciale.
Jusqu'à... Mais toute puissance économique, commerciale, intellectuelle du monde. C'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'à au XVIIIe siècle, en fait, le monde occidental, le pouilleux Occident, regardait l'Inde et la Chine avec une espèce de fascination qu'on peut retrouver chez Marco Polo, qu'on peut retrouver aussi dans la façon
dont
on a essayé d'imiter par exemple, les textiles indiens entre le XVIe et le XVIIIe siècle, comment en fait on a regardé l'Inde avec les yeux de Chimène, comment les bijoux venaient d'Inde, comment la richesse venait d'Inde, comment l'or occidental qu'on avait gagné, vaguement gagné par nos colonisations en Amérique du Sud, eh bien partait en Inde, puisque c'était là qu'étaient en Inde et en Chine les produits qu'on voulait véritablement. Et donc en fait, l'histoire de notre richesse à nous, qui est la richesse de l'Occident entre le XVIIIe et le milieu du XXe siècle, est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. L'Inde et la Chine sont en train aujourd'hui de récupérer la place qu'elles ont toujours eue dans l'histoire du monde, la place des premières et deuxièmes puissances, à la fois démographiques et politiques et économiques du monde.
Et il y a quand même une forte immigration indienne ?
Oui, il y a toujours eu une diaspora indienne très importante, notamment, mais en fait, cette diaspora indienne est récente, elle date du 19e et du 20e siècle. Avant, les Indiens étaient très bien chez eux. Vous savez, c'est pas un hasard si l'Inde a 1,4 milliard d'habitants. C'est parce qu'en fait, et la Chine aussi est si peuplée. C'est parce qu'en fait, contrairement à l'Occident, ils ont beaucoup moins connu de famine que nous, et ils ont été beaucoup mieux organisés économiquement que nous depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a à la fois marqué dans cet ouvrage, c'est-à-dire ce monde qui vient est en fait la renaissance ou la reconstitution d'un monde qui n'a pas été dissous et qui est au fond l'état normal de l'humanité, c'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants connaîtront à nouveau ce que nos arrière-arrière-grands-enfants, grands-parents ont connu, c'est-à-dire la puissance et la fascination qu'ont exercé l'Inde et la Chine sur le monde, et ce, je le rappelle, pendant l'essentiel de l'histoire de notre humanité.
Est-ce que, comme c'est le cas dans le roman, une certaine jeunesse indienne peut partir, fuir justement les traditions et les castes, faire fortune et revenir pour réinsuffler de la modernité?
Alors, c'est effectivement le cas du personnage de Sanji, hein, qui est parti à Oxford faire des études et puis qui va part aux États-Unis pour regarder un peu comment ça se passe, mais d'une manière presque
qui vient chercher des fonds pour développer sa société en Inde.
Mais l'essentiel de sa fortune est indienne. L'endroit où il compte faire sa vie est en Inde, et même si c'est un peu un héritage, pas malgré tout, puisqu'il a hérité de son père de départ d'un palace, il reste quand même un entrepreneur indien. On voit bien qu'en fait, dans l'ouvrage, le monde, le crépuscule de l'Occident est là, il vieillit, c'est ce monde qui ne sait plus regarder, qui sait juste reproduire ce qu'il a toujours connu, et que l'avenir qui vient, c'est ce Sanji, c'est ce monde indien. Et effectivement, l'Inde s'appuie beaucoup sur ses diasporas, effectivement, pour ne serait-ce que mieux connaître, décrypter le monde qui vient.
On dit caste, d'ailleurs, il y a combien ces castes?
Il y en a des milliers. Il y a des milliers de castes différentes. C'est pour ça qu'à ce niveau de
Et quand on dit caste, c'est la notion de famille ou c'est plus large
non,
que ça?
C'est plus large que ça. Il peut y avoir des clans familiaux, mais ça marche aussi par métier, éventuellement.
C'est comme des lobbies, quoi. Des communautés, des.
Oui,
réseaux.
Ce sont des communautés de métiers, de réseaux.
C'est aussi lié par l'argent, quoi.
C'est aussi régional. Vous pouvez avoir plusieurs castes, mais vous avez des milliers de castes. Ce qui nous fascine, nous, en fait, correspond à des classes sociales dans la plupart des cas, mais aussi à des choses beaucoup plus endogames, beaucoup plus nettement indienne, mais c'est vrai que ça perdure, mais ça n'empêche pas l'Inde, encore une fois aujourd'hui, d'avoir des taux de croissance de 7 à 8% par an. Alors je ne suis pas blanc-bleu, je ne suis pas totalement béni. Oui, je sais bien que l'Inde fait face à des problèmes extrêmement graves, mais c'est une démocratie par exemple.
Mais il y a aussi une Inde high-tech qui se développe.
Et il y a aussi, encore une fois, il faut reprendre, recommencer, vous parlez du regard de l'autre. Il faut effectivement renouveler notre regard sur ces pays, savoir que l'Inde, comme la Chine, je le répète, ont été, encore une fois, des civilisations extrêmement importantes et extrêmement brillantes pendant extrêmement longtemps, et que notre fascination avant le XVIIIe siècle était vraiment portée sur l'Inde. Vous savez qu'on a tout tenté pour les imiter, qu'on a mis pendant un siècle, on a mis un siècle et demi avant de parvenir à faire les mêmes genres de tissus qu'eux. On voyait débarquer en Occident des tissus absolument incroyables, de couleurs incroyables, des cotons invraisemblables, qu'on n'a jamais su imiter, qu'on a mis un siècle et demi pour imiter. On leur envoyait des espions, on a fait venir des ouvrages pour essayer de comprendre comment ils faisaient ces Indiens, et finalement... Au 19e siècle, on a finalement réussi. Bref.
Anthony Bélanger, on vous retrouvera comme tous les matins, 6h49, du lundi au jeudi, donc c'est pas demain. Allez vous reposer.
Il y a du bon linge le matin sur Internet.
Les histoires du monde. Merci mille fois en tout cas d'être
merci
venu apporter votre éclairage. Tanguy, le restaurant L'Avenue, situé à Paris dans le 8e et dans la Tourmente.
Oui, L'Avenue, j'y suis passé des dizaines de fois quand je bossais pour la Radio Rouge. Pas Inter, hein, l'autre. Non, pas Sud Radio. Ah, je peux rien si toutes les radios sont rouges. Et je rêvais en voyant les stars y déguster des cafés en me disant, moi aussi, un jour, je me ferais braquer en lâchant 110 euros pour deux croque-monsieur. Aujourd'hui, L'Avenue est accusée de discrimination.
On continue de parler du roman de Marc Lévy, Une fille comme elle, chez Robert Laffont, après les infos.
C'est le retour de la bande originale.
Et oui, avec Léla Cadeau-Boudadé.
Bonjour.
Bravo. Tanguy Passion.
Bonjour.
Tom Villa. Bonjour. Pierre Bouguise. Notre invité est Marc Lévy.
Bravo.
Une fille comme elle, on en a parlé tout à l'heure, comme toile de fond, l'Inde actuelle, en tout cas, et les castes et le rejet, puisque le premier couple que l'on découvre dans votre roman, c'est par amour qu'ils ont quitté l'Inde, Marc Lévy, qui se retrouve, j'allais dire, rejeté par leur famille, et au bas de l'échelle, sans mauvais jeu de mots par rapport à l'ascenseur, mais la tante de Sanji a tout perdu en quittant le pays, et elle va découvrir finalement qu'elle aurait pu rester et être riche.
Oui, c'est un autre, enfin, comme le fil rouge de ce roman, c'est le traitement de la différence, mais aussi de notre différence qui nous caractérise, ce qui nous rend à la fois heureux et malheureux en fonction de la façon dont la société va recevoir notre différence. Lali et Deepak s'aiment profondément à l'aune de leur vingtaine. Lui est un très grand sportif, un grand joueur de cricket promu à une carrière internationale.
C'est même comme ça qu'elle a été séduite.
C'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais ils sont pas de la même caste. Mais ils s'en foutent d'amour. Et comme leurs familles ne veulent pas qu'ils soient ensemble, ils vont fuir l'Inde ils vont s'enfuir une nuit et ils vont embarquer à bord d'un cargo. Et lui, de très grand de sportif de très haut niveau, promu à une grande carrière, il va se retrouver liftier dans un immeuble bourgeois de New York.
Et ils sont très heureux, c'est-à-dire que
ils sont très très heureux.
Ils se posent pas la question d'être riche, d'être pauvre, de manquer de quoi que ce soit.
Non, non.
Tant que le travail est là et que leur quotidien est installé, ils ont des valeurs.
Ils sont heureux parce qu'en fait, ils vivent des choses qui sont. On pourrait, vous savez, quand on veut être péjoratif, on dit simple, mais qui en fait pour eux sont pas simples du tout et qui sont en fait des choses extrêmement simples dans leur profondeur. Et
un malheur est simplement venu ternir leur histoire d'amour, c'est l'absence d'enfant. Et là, le retour de ce neveu inconnu finalement, parce que voilà, il y a eu un courrier, il y a eu une lettre, lui il avait besoin d'une recommandation pour pouvoir passer la douane et avoir cette espèce de visa pour venir chercher de l'argent et faire des levées de fonds, mais il l'a fait par le prisme de la famille. La famille est très présente, là aussi, et les valeurs de la famille sont très présentes.
Oui, alors ça, c'est aussi les contradictions, vous savez, dans les interdits. C'est que, évidemment, Lali et Deepak, dans la famille de Sanji, ce sont... Lali, elle est la tante rebelle, celle que tout le monde a voulu gommer de la famille. Mais le jour où Sanji, et dont on n'a jamais parlé, ou parlé à mot couvert, parce qu'elle était différente. Et puis, évidemment, le jour où Sanji a besoin de venir aux États-Unis, il a besoin d'une lettre de recommandation, et il va donc faire appel à cette tante tant inconnu, ce qui va être le début d'un quiproquo et donc le début de la comédie, puisque il va, en allant la remercier simplement, se retrouver embrigadé dans toute une série.
Il peut pas faire autrement que de rester à la maison. C'est voilà. La famille.
Hospitalité,
c'est la famille. Tu ne vas pas aller à l'hôtel, tu restes à la maison et.
Exactement.
Et tu ne vas pas ailleurs. Donc il annule sa suite luxueuse au Plaza pour une chambre de 6 mètres carrés décorée pour un bébé.
Mais voilà, dans Spanish Harlem.
Et avec un matelas où les ressorts lui rentrent dans le dos. Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et tous ces rapports sur le regard des autres, que ce soit une différence sociale, une différence raciale, une différence là aussi de caste, parce qu'on pourrait dire, même si on est dans le New York moderne, qu'il y a quand même des cloisonnements.
Et une différence physique aussi, parce que le propre de Chloé, c'est que Chloé est beaucoup plus mobile que bien des propriétaires de l'immeuble qui ont pourtant leurs jambes.
Et Chloé, c'est justement la fille comme elle, une fille comme elle, le nouveau roman chez Robert Laffont de Marc Lévy. Voici Tanguy Pastureau qui m'attend là. Tanguy,
allez,
à Paris, avenue Montaigne, il y a à l'angle une brasserie chic qui s'appelle l'Avenue.
Oui, et pendant longtemps, quand j'étais sur RTL, faisant profiter cette radio de ma verve jamais molle, je passais tous les jours devant. L'Avenue, située à mi-chemin entre RTL et Europe 1, c'était la radio des stars. En y entrant, vous voyez Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel, mais aussi des salariés ayant un âge normal. Au mois de juin, la grosse technique, quand on bossait sur une des deux radios, était de boire un café, 74 euros à l'Avenue, 95 avec du lait. Une fois, j'ai pris une orange pressée. Il a fallu avant que je signe un crédit chez CTLM. On discutait de banalités, les bouchons à Paris, le fait qu'on aimerait être un gros bourdon pour piquer Anne Hidalgo dans la fesse droite pour la punir. Quand Jade Lagardère déboulait, on lui claquait la bise en lui disant « ça va ma grosse loute ». Elle répondait « mais enfin, par le scalpel du docteur Martin, qui êtes-vous ?» Et le temps que vous lui disiez « personne, Pastureau », tout le monde pensait que vous alliez sur Europe 1. Et les types de RTL, juste pour que vous restiez, vous filaient un gros chèque, une voiture de fonction et des disque piqué à Georges Lang dans le live pirate de ZZ Top de 84 où on entend juste parce que le chanteur a avalé sa barbe. Alors que là, à Radio France, on est tout seul dans le quartier. Donc si je vais bouffer une pizza dans le coin avec un mec de France Bleu, au mieux, Nagui, vous me direz c'est ça, barre-toi. Et je me retrouverai à Bleu Brazizel sous la flotte à interviewer Alan Stivell en train de râler parce qu'à cause du beurre de Song Queen Yamang de 16h, ses doigts ripent sur sa harpe. Alors l'Avenue, j'y suis donc souvent allé, toujours bien accueilli, c'est-à-dire que les serveuses, des nanas d'1m92 avec plus de forme qu'un parcours de cyclocross, me faisaient signe de me mettre dans le coin, derrière le rideau. J'avais un peu la vie de Diams. Une fois, il y en a une qui m'a parlé, j'étais tout fier. Elle m'a dit « change de table, il y a Olivier Mazerolle qui veut celle-là ». Un grand moment. Mais c'est fini, même si je rêve d'y revenir pour leur dire « vous avez vu ce que je suis devenu ?» Ce à quoi ils me répondront « mais qui êtes-vous » Et désespéré, je leur dirai « allez-y, saignez-moi, je vais prendre 4 coca, le bar entier sur lit de caviar au jus de tapir, plus en dessert, le délice suprême ivoire. » C'est une mousse au chocolat. Hein. Mais si je n'y vais plus, ça fait 10 jours que je vois l'Avenue dans le journal. Hein. Une affaire de discrimination. Le site BuzzFeed dit avoir appelé l'Avenue en disant « bonjour, je voudrais une table pour 4 au nom de Mohamed Farid Barkaoud ». Le resto leur répondait « désolé, c'est complet. Ah, l'établissement entier est en train de passer sous un tunnel. Ça va couper. Hein. » Ensuite, ils faisaient la même chose avec comme nom Jean-Michel Dupont et là, pouf, la table se libérait. Magie, il y avait aussi des colombes qui s'envolaient et des lapins.
Bon, ce sont pas les seules accusations portées par BuzzFeed, visiblement, qui en veut à son restaurant.
Non, parce qu'ils disent que quand des femmes voilées insistaient quand même pour être placées, on les mettait à l'étage, avec, je cite, « les moches et les gros ». Donc si vous étiez et arabe, et pas top, et en surpoids, une poulie sortait du plafond et on vous collait directement dans le grenier, à côté de la farine. Donc maintenant que ça se sait, tous les gens qu'on a mis à l'étage disent à leur femme « bébé, dis-moi la vérité, j'ai pris du bide, je suis pas beau, vas-y, balance tout, ça va me motiver pour changer ». Objectif dans 3 mois, la terrasse au soleil à côté d'Yves Calvi. Alors en gros, des anciens de l'Avenue disent que l'établissement cherche à éviter les dames voilées pour ne pas rebuter la clientèle alors qu'il n'y a que des gens des médias, donc ouverts à la différence. Non. Enfin en tout cas, c'est ce qu'ils conseillent au public de faire. Donc. Bon, là-dessus, scandale. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, un type de droite qui en vieillissant est de plus en plus de gauche, soit l'inverse de tous les autres, s'est saisi de l'affaire. Il a essayé de réserver une table au nom de Mahmoud Jacques Altoubon,
pour voir si on le mettait à la cave avec le pinard. De son côté, l'avenue s'insurge. Ils annoncent qu'ils porteront plainte contre BuzzFeed pour diffamation, qu'ils acceptent tout le monde, les moches, les noirs, les jaunes, les cul-de-jatte qui ont du psoriasis, les gros, les maigres, à part Kate Moss, parce que quand elle vient, elle prend juste une feuille de mâche et ça vaut pas le coup d'encaisser que 55 euros, et même les journalistes. Donc, il va y avoir enquête. Bon, en attendant, je connais un peu le truc, hein, c'est quand même le resto le plus matu vu du coin, hein, où tous les crevards des médias viennent s'exhiber. Même si Philippe Risoli va y boire une limonade avec Childéric et Tataillé, il y a des mecs qui refilent leur CV. RTL, en plus, a déménagé. Europe 1 va le faire. D'ici 6 mois là-bas, il n'y aura plus que des inconnus, à tel point qu'on aura l'impression d'assister au Conseil des ministres. Mais je me souviens encore de cette fois où la serveuse m'a dit « Non, casse-toi, on attend Jean-Luc Reichmann. » C'était le bon temps.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Leïla Kadour-Boudali, tout à l'heure, l'a évoqué, Marc Lévy, à propos de vos romans et du côté cinématographique, vous dites, je ne décris pas les personnages, mais c'est vrai qu'on imagine bien un scénario, on voit bien des mouvements de caméra, on voit bien un jeu. Est-ce qu'il est déjà anticipé qu'une fille comme elle soit un film ou une fiction?
Il est sorti à 3 jours.
Mais on sait, parfois c'est très rapide.
Oui, non.
Et ça peut être une envie sans que ça soit encore fait.
Oui. Écoutez, il y a des chances. Il a un avantage, c'est que vous avez parfois certains romans qui sont très cinématographiques. Mais par exemple, quand j'ai écrit Le Premier Jour et La Première Nuit, qui était un roman d'aventure, tout le monde me disait mais ça va être un film. Sauf que la première ligne du roman avait déjà dépensé le budget d'un film français. Ouais. Donc ça pouvait pas être un film parce qu'il aurait coûté très très cher. Là, l'avantage, c'est que ça peut être un film, mais ça peut aussi surtout être une pièce de théâtre. Donc ça peut être vraiment les deux, puisque c'est
bien sûr
toute l'histoire se passe en fait dans un même quartier autour d'une communauté qui vit dans un immeuble.
Il pourrait presque y avoir un huis clos dans l'immeuble en fait.
Non, parce que les scènes qui se passent, justement, le contraste entre le quartier de Spanish Harlem et la vie dans Spanish Harlem et la vie dans Greenwich Village avec ce qui se passe dans le parc. Mais bon, en tout cas, ça n'est pas un film à gros budget. Et donc,
non, mais c'est une pièce de théâtre à gros budget. Si vous voulez faire 3-4 décors pour une pièce de théâtre.
Oui, la pièce de théâtre pourrait se faire uniquement dans l'immeuble avec l'ascenseur.
Ah
oui,
voilà,
absolument.
D'accord.
À chaque fois, on vous achète les droits de vos livres ou pas?
Pratiquement, oui.
Ça s'est fait plusieurs fois, oui, mais pas toujours dans les mêmes pays. Par exemple, en ce moment, Le Voleur d'ombre est en train de se faire en Chine, et pas dans d'autres pays. Et si c'était vrai, c'est fait en Inde. Une autre idée du bonheur a été prise par par le cinéma indépendant aux États-Unis. Enfin voilà, ça dépend des pays. Vous avez des histoires qui vont toucher à un moment. Il y en a un autre qui est propre. Enfin, il ne faut jamais dire qu'un film se fait tant qu'on ne peut pas acheter un billet et aller le voir en salle. Parce que ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus incertain que ce processus-là. Donc on peut parler des choses qui sont en cours, mais sans absolument vouloir dire, frimer en disant « Ah ben le film va sortir ». Mais bon, il y a un des romans qui est en cours d'adaptation en série. La route est longue, ça verra. Mais de toute façon, je dirais que le plus marrant là-dedans, c'est le travail. C'est vrai c'est encore plus joyeux quand ça arrive jusqu'à l'écran, mais le simple fait de travailler avec des scénaristes, de revisiter l'histoire, d'entendre des gens qui vous disent, ben non, on va raconter ça comme ça, et de se dire, ah, tiens, ben, j'aurais peut-être pu faire ça dans le roman. Enfin, voilà, c'est cette, parce que l'écriture du roman, elle est très solitaire. On est face à sa feuille, on est en conversation avec ses personnages. Et dès que vous avez des gens qui interviennent, et si vous prenez la position de dire, mais pareil, vous voyez, comme de partir à la rencontre des autres, si vous dites, mais moi, j'ai pas envie de leur imposer mon point de vue, j'ai surtout envie d'entendre le leur et d'apprendre de toutes les idées qu'ils peuvent avoir. Alors, c'est, en fait, le plus beau voyage de l'adaptation, c'est de rencontrer un réalisateur, un scénariste, un metteur en scène qui ont des points de vue, qui ont des idées, qui, en fait, ont cette générosité extraordinaire de se pencher sur vos personnages pour dire on va vraiment leur donner vie.
Il est temps de passer de la générosité extraordinaire à Daniel Morin.
Ah non de Dieu, quelle galère,
quoi,
je ne parle pas de Nagui, quelle galère épouvantable, c'est l'enfer pour plus de 800 000 lycéens en attente de bac ou étudiants en réorientation qui se sont inscrits sur Parcoursup, le site de l'éducation nationale qui décide de votre avenir. Tu t'inscris, tu formules maximum 10 vœux d'orientation et c'est la machine qui décide. En plus, non seulement c'est une machine qui décide de ton avenir, mais C'est hyper, hyper pas au point. Je l'ai vu de mes yeux vus hier sur Internet, une capture d'écran d'un étudiant en attente de réponse. Parcoursup lui écrit « Vous êtes pour le moment en liste d'attente. Nombre total de candidats sur la liste d'attente, 102. Votre place sur la liste, 128e.
Ouais, c'est fou,
hein. Hyper mal parti de la folie furieuse. En plus, pardon, mais c'est super impersonnel. Un algorithme qui décide de ton avenir. Ils auraient pu au moins mettre une voix avec qui tu peux échanger, comme Siri sur les iPhones, un truc un peu interactif et convivial. Tu t'installes face à ton ordi, tu entames une discussion. Un truc cool, quoi. Bonjour et bienvenue sur Parcoursup. Comment vas-tu ?
Super, merci Parcoursup.
Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire comme étude ? Hein ? Dis-moi tout. Dans un premier temps, mon premier choix, c'est une école d'ingénieurs bien placée dans Paris, avec une bourse et une aide au logement. Super, quelle est ta situation ? Je vais passer un bac littéraire option art plastique. Je regarde immédiatement les disponibilités. Désolé, j'ai besoin de plus d'informations. Ok, tu habites dans quel département ?
Le 93.
Super, je relance la recherche. Désolé, j'ai besoin de plus de renseignements. La profession de tes parents, s'il te plaît.
Alors, maman garde des enfants en bas âge et papa est en arrêt maladie. Il travaillait sur une chaîne de montage et il a reçu une voiture sur la tête.
Génial, je relance la recherche. J'ai la réponse. Quel est ton deuxième choix d'orientation ?
Si ingénieur, c'est pas possible, j'aimerais bien faire des études pour devenir député ou sénateur, pourquoi pas ministre.
Ok, super. Quel est ton troisième choix d'orientation ?
Je sais pas.
CRS ? Ah, tu deviens raisonnable. Je lance la recherche. Eh, bonne nouvelle, mon ami, tu viens d'être admis.
Admis à l'école de CRS, pour l'instant sur la liste d'attente. Je suis en quelle position sur la liste ?
Ne t'inquiète pas, tu seras sûrement présent à la rentrée. La rentrée 2018 ? Je ne sais pas ! Au revoir, merci d'avoir fait confiance à Parcoursup.
Bon bah, la galère en même temps, pas de panique les amis, hein. Même sans grand diplôme, des carrières très très cool sont toujours possibles. Par exemple, avec un CAP massage finition, vous pouvez très bien intégrer le statut de stagiaire à France Inter.
C'est pas payé les 15 premières années, mais c'est la sécurité de l'emploi. On peut pas tout avoir, les amis, à demain.
Merci. France Inter, la bande originale.
C'est quoi cette musique ?
Avec Nelly.
Téléachat, non ?
Non, mais l'autre.
Et le petit train ?
Ah, le petit train, c'est le
petit Rébus.
C'est
le Rébus. 60.
Ouais, c'est formidable. Ça. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça.
Ça va revenir, c'est le retour de l'ORTF bientôt.
Il y avait des interprogrammes et quand il fallait attendre des directs ou quoi, il y avait des Rébus. C'était un petit train, vas-y, envoie la musique. Et voilà. Et là, pendant, mais ça pouvait durer 10 minutes. Et il y avait un petit train qui passait et chaque wagon. Donc le train s'arrêtait, le wagon était un dessin, un rébus, puis le wagon suivant, ainsi de suite, et il fallait deviner la réponse comme un rébus traditionnel.
Cultissime,
ça. On l'a vu dans la série Speakerine.
Marc Lévy, une fille comme elle, je le rappelle, une histoire d'amour, une histoire d'ascension professionnelle, une histoire de regard sur les autres, que ce soit un racisme ethnique, social, de couleur de peau, de différence avec un fauteuil roulant, toutes ces choses comptent et jouent dans ce roman. Et puisqu'on parlait de Rébus, tu me le fais remarquer, Leïla.
Il y a des dessins aussi, il y a des illustrations dans ce roman.
Oui, absolument.
C'est une première
Ce sont vos dessins personnels ?
Non. Alors, la petite histoire de ces dessins, c'est ma femme qui est illustratrice et à qui j'ai demandé de faire ces dessins. Et alors, pourquoi ?
Elle n'est pas créditée ?
Si,
elle est à l'intérieur.
Page 2.
Ok, ça va.
Je voulais entendre.
Franchement,
Avant l'exergue.
Ah oui. Et en fait, voilà, exactement. Et en fait, la raison de ces dessins, c'est que un certain nombre de chapitres commencent par une ou deux pages du journal de Chloé, qui raconte le chemin de sa reconstruction et comment elle est redevenue une femme apparente.
Et qui clôt le roman aussi, c'est-à-dire qu'on a la boucle est bouclée.
Et on comprend à la fin exactement ce qui va arriver. Et dans certains chapitres, elle écrit pas parce que je voulais pas que ça soit un process systématique. Et donc ce que j'ai voulu, c'est que ces illustrations, en fait, c'est comme si Chloé dessinait dans son journal. Et en fait, ces dessins sont les dessins de Chloé. Alors je m'exerce à l'écriture, mais alors en revanche, pour dessiner une pomme de terre, il me faudrait 8 mois. Et donc j'ai la chance d'avoir une femme qui a ce talent et cette grande poésie d'illustratrice. Elle fait des livres pour enfants aux États-Unis et je lui ai demandé et elle a accepté. Et d'où ce sont ces illustrations, mais qui sont en fait les dessins de Chloé dans le journal de
l'interprète Chloé dans
elle,
son
elle joue Chloé, voilà.
Quelle est votre manière de travailler? Est-ce que vous êtes papier crayon, vous êtes ordinateur, est-ce que vous êtes carnet, vous aimez sortir, aller dans un parc? On a vu tout à l'heure que vous observiez les gens ou que vous les interviewez carrément pour mieux les connaître avant de partir dans une fiction totale. Quel est votre lieu?
Je serais incapable d'écrire dans un parc ou à la terrasse d'un café, parce que c'est comme si j'étais chanteur et j'allais faire mes vocalises dans un parc ou dans un café. Je suis trop timide pour ça.
Ça fait moins de bruit, quelqu'un qui écrit.
Oui, c'est vrai.
Aussi.
Je n'avais pas pensé, maintenant que vous le dites. Mais bon, non.
Mais vous avez besoin d'être toujours au même bureau?
En fait, je suis trop curieux pour tout vous dire, et donc je peux pas en même temps écrire et regarder, quoi. Je sais pas faire deux choses en même temps. Voilà, vous savez, j'ai ce défaut des hommes qui savent pas faire deux choses en même temps. Et donc, j'adore, donc je passe beaucoup de temps à les regarder, à observer, à poser des questions, à écouter, et puis je mémorise. De toute façon, je pense que la mémoire est un filtre formidable, parce que vous oubliez a des chances d'être moins intéressant que ce que vous retenez. Et ensuite, en revanche, quand j'entre en période d'écriture, pendant 5 mois, j'écris enfermé 15 heures par jour dans mon bureau.
Donc c'est un bureau, c'est un ordinateur?
C'est tout. C'est des post-it, c'est des feuilles de papier, c'est des carnets, un ordinateur. Parfois, on colle même un post-it sur l'écran de son ordinateur. Il faut pas oublier de coller.
Mais la plus grosse erreur, c'est de mettre du Tipex sur l'écran d'ordinateur.
Ça, c'est très. Oui.
Ça sent le vécu.
Ça sent le vécu, absolument.
Ça sent la vanne.
Absolument. Mais non, ça là, c'est un grand Capharnaüm, mais il y en a partout. Il y a la documentation, les machins. Mais c'est un joyeux foutoir. C'est pas du tout organisé.
Est-ce que vous lisez pendant que vous écrivez? Est-ce que vous lisez d'autres romans, des essais, des récits?
Non, je lis. Alors, pour tout vous dire, je lis. Pendant que j'écris, je lis tout ce qui peut être relatif à ce que je suis en train d'écrire.
C'est de la documentation.
D'accord. Il y a deux auteurs. Il y a des moments. C'est un métier où il y a des grands moments de doute quand même. Dans cette solitude de l'écriture, il y a quand même des jours où vous relisez et vous vous dites mais pour qu'est-ce. Bon, bref.
Ouais, c'est fou, c'est pas terrible. Au
oui,
secours.
Vous venez. Ouais. Mais à quoi ça sert? Et là, de temps en temps, il y a. Enfin, j'ai dans ma bibliothèque 2-3 livres d'auteurs que j'aime particulièrement. Et quand il y a un grand moment de découragement ou de doute, je vais ouvrir une page de leur livre, je relis une page, je vois ce que ça me fait et je me dis, bon, si je dois travailler 20 ans pour en arriver là, ça vaut le coup de travailler encore pendant 20 ans et donc je me remets à ma table.
Et quels sont ces auteurs, si on devait les limiter?
Romain Gary.
Ouais.
Un auteur américain qui s'appelle Kate Aruf et qui sont l'un et l'autre des écrivains qui ont consacré toute leur carrière littéraire à écrire sur les gens.
Et vous aimeriez jouer à écrire un Émile, avoir votre Émile Ajar?
On peut pas poser la question comme ça parce que c'est pas l'auteur qui peut décider de ça. Il n'y a que les lecteurs qui peuvent décider de ça.
En tout cas, écrire un roman et le publier sans la signature marquée.
Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Vous parliez sur la.
Oui.
Non, pardon. Je pensais que vous parliez par rapport au niveau atteint
par. Je parle par rapport à la marque Marc Lévy.
Je crois pas. Hein.
Parce qu'il y a des gens qui achètent le dernier Marc Lévy sans savoir de quoi parle une fille comme elle.
Ah. Oui, mais je trouve qu'en fait, vous voulez que je vous dise, je pense que finalement, ça veut dire que votre prise de risque est encore plus grande.
De ne pas les décevoir.
Ouais, parce que vous pouvez, parce que en fait, c'est très difficile de tromper quelqu'un qui ne vous a pas fait confiance. Mais en revanche, vous pouvez pas vous permettre de tromper quelqu'un qui vous fait confiance. Donc, changer de nom.
T'as compris, Daniel?
Non.
Pour l'appeler Philippe maintenant.
Ce que je veux dire par là, c'est que
c'est une blague.
Mais parce que je veux essayer d'expliquer.
Sauf qu'un roman qui ne serait pas publié sous le nom de Marc Lévy aurait sans doute moins de chances de décevoir parce qu'il serait sans doute moins lu.
Ça dépend parce qu'il paraît que vous êtes également Guillaume Musso. C'est vous.
Je ne voulais pas que ça sache.
Oh, des excuses, des excuses.
Trois mousquetaires et trois mousquetaires.
J'ai encore un café. Oui, alors désolé justement pour Alexandre Dumas et Victor Hugo qui, s'ils nous écoutent, ont été choqués par les blagues de Marc Lévy concernant les Trois Mousquetaires et les Misérables. Ah oui, pardon, il y a Augustin Trapenard qui me dit dans l'oreillette que Dumas et Hugo seraient morts de la grippe il y a 2 ans à Mulhouse. Bon, bah, je vais vérifier quand même. Désolé pour Marc Lévy qui pensait venir tranquillement parler de la love story de Sanji et Chloé qui se retrouve avec l'hystérique Anthony Bélanger et ses fascinations pour les cotonnades indiennes et le poulet tikka masala. Ah, je vous assure, on fait ce qu'on peut dans cette émission. Désolé enfin pour Nagui, actionnaire discret mais important de Facebook et ancien collaborateur discret et très influent de la Stasi, et oui, qui a été humilié par les critiques qui ont été faites dans cette émission. En même temps, Nagui, ça va, on n'a rien dit sur tes amitiés avec Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar al-Assad.
Ça va alors, ça va, aller. Ça va aller. Merci Marc Lévy.
Merci à vous.
Merci mille fois. Une fille comme elle, sortie il y a 2 jours, c'est chez Robert Laffont et c'est du Marc Lévy, puisque maintenant ça devient une marque, voilà, et il ne vous décevra pas, justement, puisque c'était ça qui vous inquiétait, Marc.
Par contre, demain.
Demain, c'est. Non, tout va bien. Demain, c'est Philippe Labro, notre Fifi nationale, qui sera notre invité. Nous sommes en retard, pardon, Philippe Bertrand, les carnets de campagne après les titres.
C'est pas grave, les amis. Bon, on va faire vite. Merci. Mais quand même, j'ai commencé à lire Marc Lévy. Il manque du texte, page 44. Je sais pourquoi maintenant. C'était le post-it sur l'écran.
C'est ça, oui, c'est ça. Bonne émission.
Salut, les amis.
Salut.